Vous avez encore quelque chose dans les poches, madame?
GSM, clé, ceinture, faut tout déposer là-bas, s'il vous plaît. Merci. Celui-ci?
Oui.
Mon client était poursuivi pour participation à un groupe terroriste. C'est l'infraction principale en cette matière. Et cette participation, on la basait notamment sur une photo. Une photo où on le voyait avec une arme. Et il m'avait expliqué, de façon assez détaillée, mais oui, c'est une photo qui était prise à l'époque, quand j'étais encore en Algérie, parce qu'il est algérien. J'avais été rendre visite à un de mes cousins qui est militaire de carrière et c'est lui qui a pris cette photo alors que je posais avec son arme qui était assez impressionnante. Et cette photo qui avait abouti dans le dossier, mais j'avais demandé notamment mais qu'on vérifie quand elle était prise. En matière de terrorisme, nous savons que tous les services de renseignement travaillent la main dans la main. Les Belges avaient obtenu un certain nombre de renseignements de la part de services algériens. Ils auraient pu facilement interroger le cousin en question pour avoir un minimum de vérification par rapport aux déclarations de mon client. Je n'ai jamais pu obtenir cela. Jamais. J'ai eu beau m'en plaindre. J'ai demandé à ce que telle autre vérification se fasse, etc. Je n'ai rien obtenu. Rien. Impossible. Donc je me suis heurté à un mur total. Or, cette pièce était considéré comme une preuve essentielle.
C'est bon, madame, c'est les chaussures, c'est bon.
Ce qu'il y a de particulier dans la façon dont les affaires en matière de terrorisme sont jugées, c'est ce que j'appellerais de façon très générale la violation des droits de la défense. Il y a entre la défense et l'accusation une inégalité qui est vraiment totalement insupportable. Je m'explique, au niveau des poursuites, quand une enquête commence, quand un juge d'instruction est saisi, les juges d'instruction qui se disent très très fiers d'être indépendants, etc., ce qu'on va très vite constater, c'est que le juge d'instruction, en fait, n'a aucune indépendance par rapport au procureur. Il travaille la main dans la main. À chaque fois, vous n'avez pas un poil de différence entre ce que veut le procureur et ce que décide le juge d'instruction. Le juge d'instruction n'a plus du tout cette indépendance dont il se montre aussi fier à l'extérieur et dans les médias. Il n'en a aucune en réalité. Puis ensuite, dans le cadre de la seconde phase, c'est-à-dire la phase de jugement, quand on comparait devant le tribunal ou devant la cour, il y a de nouveau cette même inégalité qui se poursuit entre l'accusation et la défense. Ainsi, dans un dossier que j'ai plaidé récemment, le procureur avait établi tout un argumentaire par écrit en citant un tas de décisions rendu par d'autres juridictions belges en matière de terrorisme en disant « Écoutez, regardez, ça c'était bien jugé là-bas, la participation doit s'interpréter de telle et telle façon. » Et je lui ai dit « Écoutez, communiquez-moi toutes ces décisions auxquelles vous faites référence dans votre écrit. » J'ai dit au tribunal « C'est essentiel. Si moi, je défendais en citant un certain nombre de décisions, vous me le demanderiez, vous juge. Et pourquoi est-ce qu'au procureur, vous ne le demandez pas ?» Les juges ont baissé la tête. Non, on ne demande pas au procureur. Si le procureur le dit, c'est que ça doit être vrai. Vous avez une inégalité qui est tout à fait scandaleuse, inacceptable. De même, lorsque le procureur, dans ce dernier dossier à l'audience, parce qu'il n'avait jamais été question de cela avant, dans le cadre de l'enquête, a demandé, écoutez, je demande aussi qu'on déchoie l'intéressé de sa nationalité belge. J'ai dit, mais écoutez, là, comment est-ce que vous pouvez demander cela alors que vous n'avez pas la moindre enquête sur le passé familial, sur le passé socio-professionnel de l'intéressé en Belgique? Vous n'avez pas le moindre élément d'appréciation. Il y avait bien sa mère, quelques proches, membres de sa famille qui avaient été interrogés dans le cas des poursuites en matière de terrorisme. Mais il n'y avait rien en ce qui concerne les attaches. Il faut savoir qu'on a modifié la loi pour faciliter la déchéance de nationalité lorsqu'il y a condamnation en matière de terrorisme. Mais c'est quelque chose qui existait déjà dans la loi depuis plus longtemps. Mais avant, comment cela se passait? C'est que quelqu'un était condamné, une peine relativement sévère. Et compte tenu de la sévérité de cette peine et compte tenu de la conduite de l'intéressé, dans une phase après la condamnation pénale, le procureur pouvait envisager de demander la déchéance de nationalité. Mais c'était donc une seconde procédure. En principe, c'est un des attributs du juge civil. Et quand c'est soumis au juge civil, mais on se base sur toute une enquête spécifique en ce qui concerne le parcours de l'intéressé sur le territoire belge, en disant... Voilà, il était condamné, mais en plus, il n'est pas du tout intégré pour telle et telle raison. En plus, il a des attaches toujours dans son pays d'origine, ce qui permet de dire que cette déchéance de nationalité ne va pas porter atteinte à ses droits élémentaires. Il retrouvera en quelque sorte un point d'attache dans son pays d'origine. Mais lorsque cela est demandé dans le cadre d'une procédure pénale, sans qu'il y ait une enquête spécifique, c'est une violation manifeste des droits de la défense de nouveau. Et j'avais développé cela par écrit dans ce qu'on appelle des conclusions, c'est-à-dire une argumentation à soumettre au tribunal, mais une réponse. Je veux dire, ce que demande le procureur, ça ne peut être que justifié. En d'autres matières, lorsqu'on développe une argumentation que le procureur n'est pas en mesure d'expliciter, les juges habituellement considèrent qu'en effet, il faut qu'on complète le dossier sur tel ou tel aspect ou qu'on ne peut pas répondre à cette demande. Mais non, ici, on a considéré que si le procureur le demandait, on pouvait se contenter de ce qu'on avait et décider comme il le demandait. De nouveau, tout comme le juge d'instruction, les juges, ce que l'on constate, c'est de nouveau un manque d'indépendance évident et qui est vraiment inquiétant. C'est pas ce qu'on attend de la part de juges dans un état de droit qui se respecte, qui est attentif à ce principe essentiel qui est le respect des droits de la défense. Et le respect des droits de la défense, c'est notamment de veiller comme juge à garantir une certaine égalité des armes entre l'accusation et la défense. La justice, pour moi, mais il ne faut pas confondre la vertu qu'est la justice avec l'administration de la justice. Souvent, d'ailleurs, c'est ce que je m'efforce d'expliquer aux gens qui viennent me consulter. Je leur dis, attention, c'est pas parce que ça s'appelle la justice, là, le bâtiment en face, que c'est juste. Méfiez-vous, c'est une machine qui broie les gens. Nous, comme avocats, on peut essayer de trouver une parade ou de chercher à faire face, mais ça ne va pas être facile. Mais ne confondez pas la justice et l'administration de la justice, oui. C'est essentiel.